Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Numéro 8. Le mystère de la piété. Esther Grand. Brian Kozurek. Pasteur. Le dimanche passé, nous avons parlé du paragraphe 14 du sermon « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ?» et nous avons examiné la différence entre le Consolateur qui Esther le Saint-Esprit, qui nous Esther donné, et l'Esprit de vérité qui Esther l'Esprit de Dieu dans un ministère prophétique, qui doit nous conduire dans toute la vérité. Pour ce faire, nous avons examiné les Écritures de Jean 14 et Jean 16. Ce matin, je voudrais continuer avec le paragraphe suivant qui Esther le paragraphe 16 du sermon de frère Branham, « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ?» Et nous lirons ce que frère Branham a dit. 16 Jésus a dit que ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, et que le Père est en moi, et que vous êtes, que je suis en vous, et que vous êtes en moi. Maintenant, si nous devions dire ceci. 17 Maintenant, souvenez-vous, ceci va être sur bande. Un homme d'affaires chrétien, de Louisville, m'a appelé tout à l'heure. Et il a dit, Sester dommage, Billy, que ces messages, comme celui que tu as dit hier soir, n'en atteignent pas 40 000, ici, au lieu de 150, ou 200, 300 personnes dans ton petit tabernacle. 18 J'ai dit, monsieur, si Jésus tarde, d'ici 6 mois le monde entier entendra ceci. Voyez? Ces bandes vont partout dans le monde, vous voyez? Partout. Et, par conséquent, là, nous enseignons ici exactement ce que nous croyons être la vérité, et ce que nous avons vu Dieu nous confirmer, que c'est la vérité. 19 Maintenant, le but. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, je noterai ça. Jean 14. À partir du verset 14. Et de continuer à lire dans le chapitre, comme base. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but, que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers l'Église. C'est-à-dire que, Dieu était en Christ, il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'Église, il poursuit son œuvre à travers l'Église. 20 Maintenant, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons vu, hier soir, que c'est Dieu. Maintenant, quand nous pensons à Dieu, le Père, comme Jésus en a parlé ici, son Père, Dieu, le Fils, comme Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts, séparés. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Disons-le comme ceci, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ, parce qu'il s'est vidé et il l'a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église, pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ, et tout ce que Christ était se trouve en vous. Car Dieu a été fait chair, et il a habité parmi nous. Et Timothée 3.16. Si vous prenez ça en note, sans contredit, le mystère de la piété Esther Grand, Dieu a été manifesté en chair, et nous l'avons touché. Dieu, Jéhovah, fait chair, et il a marché sur la terre, et nous l'avons vu de nos yeux. Maintenant, allons-y et lisons-le par nous-mêmes. 1 Timothée 3h16 et, sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Darby, maintenant, je voudrais examiner cette écriture-ci avec les paroles de frère Branham les concernant, pour mieux comprendre ce que le prophète de Dieu nous dit ici. Et laissez-moi dire ceci, cette écriture est l'une des écritures que les croyants unitaires ont une grande difficulté à comprendre, en raison de la manière dont les paroles ont été dites. Et comme nous avons dû décomposer Esaïe 9, 6 une pensée à la fois afin de la comprendre, nous devons également décomposer cette écriture une pensée à la fois, afin de la comprendre. Parce que si vous lisiez Esaïe 9, 6 comme si vous lisiez un livre, vous sauterez beaucoup de points différents, et vous sortirez avec un fils de Dieu qui est éternel et cependant, ce fils est le Père éternel et le Dieu puissant. Mais ce n'est pas du tout ce qui est dit. Par conséquent, laissez-moi d'abord lire Esaïe 9, 6 une pensée à la fois, puis nous pourrons faire la même chose pour 1 Timothée 3h16. Maintenant, je me rappelle de façon très nette, il y a 13 ans 2001, je conduisais une réunion de ministres à Lima, au Pérou, et un frère a posé la question, si Jésus n'est-il pas Dieu, et qu'il n'est-il pas son propre Père, pourquoi Esaïe 9, 6 l'appelle-t-il le Dieu puissant et le Père éternel? Et en toute honnêteté, j'en avais pas la moindre idée, parce que je n'avais jamais entendu frère Vell ou frère Branham l'aborder. Je n'avais pas de réponse, mais alors que je commençais à parler, le Saint-Esprit a parlé en moi et m'a dit, lis-le une pensée à la fois. Alors j'ai dit la même chose au frère, qui avait posé la question. J'ai dit, lisons Esaïe 9, 6. Pas juste comme un livre, mais lisons-le une pensée à la fois, parce que la parole de Dieu sont les pensées de Dieu, et si nous les lisons d'un bout à l'autre rapidement comme nous lirions un livre, nous n'y comprendrons pas ses pensées. Ainsi, j'ai dit ouvrons nos Bibles et lisons toute la déclaration, puis décomposons-la une pensée à la fois. Esaïe 9, 6 car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix. Darby, alors j'ai dit, maintenant, retournons et relisons-le une pensée à la fois, pour comprendre ce qu'il nous dit. Esaïe 9, 6 car un enfant nous est né, maintenant, voici la première pensée. Et remarquez que cette pensée nous dit qu'un enfant est né. Maintenant si un enfant est né alors quelqu'un devait avoir donné naissance à cet enfant. Ainsi numéro 1, nous voyons qu'il y avait quelqu'un qui existait avant que l'enfant n'existe. Numéro 2, si un enfant est né, alors quelqu'un de plus grand que lui a dû le porter. Numéro 3, si cet enfant est né, alors il a un commencement, donc il n'est mis peut pas être le Père éternel. Car le fait qu'il soit né, ni le fait qu'il soit le Père éternel. Vous n'êtes mis pouvez pas avoir quelque chose qui soit né, ce qui veut dire, qui a un commencement, soit le Père de soi-même. Ce n'est pas possible. Ainsi, nous devons considérer ces paroles pendant que nous lisons les autres paroles. Si nous devons comprendre ce que cette écriture nous dit. Nous lisons ensuite, un fils nous a été donné. Maintenant, nous devons également considérer plusieurs faits ici. 1. Celui-ci qui est né est un fils. 2. Tous les fils ont des commencements. 3. Ce fils a été donné. Donc, 4. Il y a quelqu'un qui l'a donné. Si nous pouvons découvrir qui a donné ce fils, nous découvrirons sa relation avec le Père éternel et le Dieu puissant. Par conséquent, nous devons savoir qui a fait don de ce fils, Et l'Esther dit dans Jean 3:16 car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Ainsi nous découvrons que Dieu, le Dieu puissant, a donné ce Fils. Ainsi ce Fils Néhémie pouvait pas être lui-même le Dieu puissant. 5. En fait, celui qu'il a donné Esther plus grand que le don qu'il a donné, parce que le donateur Esther toujours plus grand que le don. Et dans Jean 14:28 Jésus dit, car le Père Esther plus grand que moi. Et ce mot plus grand a été traduit d'un mot grec, qui non seulement signifie plus grand, mais qui signifie aussi plus vieux. Et le bon sens vous dit qu'un père existe avant l'existence de son fils. Ensuite, nous lisons au sujet de cet enfant qui est Esther né, et de ce fils qui est Esther donné. Il Esther dit, et la domination reposera sur son épaule. Maintenant, au sujet de cette déclaration, frère Branham a dit dans son sermon, les signes de sa venue 62-040718 aujourd'hui, certains pentecôtistes Néhémie considèrent même pas Martin Luther et les autres, parce que, disent-ils, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils l'avaient. Peut-être que Néhémie l'avait pas au même degré que nous l'avons aujourd'hui, mais ce n'était pas pour ce temps-là. Néhémie criait pas. Peut-être que nous allons en arriver à quelque chose de très difficile dans quelques minutes. Vous voyez donc, où est cela et ces frères-là? Ils l'étaient certainement. Qu'était-ce? C'était un corps qui croissait en partant des pieds, qui montait, atteignant les parties les plus importantes du corps en partant des pieds, jusqu'aux poumons et au cœur, et continuant jusqu'à la tête. Qui est-ce la tête? Qui est-ce la tête? Christ. C'est Esther l'intelligence. Comment le corps bouge-t-il? Par la tête. Amen. Et la domination reposerait sur quoi? C'est. L'auditoire répond, épaule. NDE. Et c'est Esther quoi ses épaules? Son corps. Amen. C'est Esther alors que la vraie et authentique Église parle dans sa puissance. C'est Esther alors que la puissance apostolique retourne à l'Église, quand la domination reposera sur ses épaules, le jugement. Une véritable Église vient, je crois, alors que je m'efforce de faire ma part pour la présenter, pour la préparer au mieux de ma connaissance, pour présenter la partie de mon âge à Christ quand il viendra. Ainsi, vous voyez que la pensée scripturaire que nous lisons dans Esaïe Néhémie concerne pas une seule personne, ce fils qui est Esther né, comme vous le penseriez si vous lisez juste comme un livre. Ça concerne le corps du Christ. Puis nous lisons la pensée suite, et on appellera son nom. Puis nous lisons une liste de titres, pas une liste de noms. 1. Merveilleux. Esther, ce que merveilleuse Esther, un nom? Non. Conseiller. Esther, ce que conseiller Esther, un nom? Non. Dieu fort, puissant. Dieu puissant Esther, ce un nom? Non. Père du siècle. Père éternel Esther, ce un nom? Non. Prince de paix. Prince de paix Esther, ce un nom? Non. Alors nous avons l'obligation de nous demander, si ces titres Néhémie sont que des titres et non pas réellement des noms. Alors qu'Esther ce que ça veut dire quand il Esther dit et on appellera son nom, ainsi que veut dire ce mot appelé? Et nous découvrons que le mot hébreu, traduit par appelé a été traduit du mot hébreu, kara qui signifie effectivement appelé mais aussi proclamé. En réalité, ce verset aurait dû être traduit, et son nom proclamera le merveilleux, le conseiller, le Dieu fort, puissant, le Père du siècle éternel, le Prince de paix. Et Jésus nous a dit dans Jean 5:43 « Je suis venu au nom de mon Père, et vous Néhémie me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Par conséquent, si Jésus est venu au nom de son Père, alors son nom, Jésus proclamera Dieu fort, puissant le nom Jésus, proclamera le Père du siècle éternel. Le nom Jésus proclamera le conseiller, le merveilleux, etc. Et le mot proclamer signifie déclarer, annoncer solennellement, divulguer, porter à la connaissance du public ce qui était ignoré, publier, rendre public. Et c'est exactement ce que Jésus a dit qu'il est venu faire. Jean 1h18 Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean 17h26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Hébreux 2h12 Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Acte 13h41 Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, que vous n'avez mis, croiriez pas si on vous la racontait. Maintenant, prenons ce que nous venons d'apprendre de Saint 9:6, à savoir, combien il est important de lire chaque pensée de la parole de Dieu, et appliquons-le à 1 Timothée 3:16 parce que c'est l'écriture que frère Branham souligne ici ce matin au paragraphe 16 de « Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné ?» Darby 1 Timothée 3:16 et, sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Maintenant, voyons cette écriture et analysons là aussi une pensée à la fois. 1 Timothée 3:16 et, sans contredit. Maintenant le mot contredit ou controverse signifie, une dispute ou une contestation, qui implique plusieurs personnes qui sont fortement en désaccord sur une question, vivent désaccord au sujet de quelque chose parmi un grand groupe de personnes. Mais cette écriture dit sans polémique. Ainsi ce que ça signifie tout compte fait. C'est-à-dire, il n'est mis peut y avoir de discussion, de contestation. Puis il nous esterdit la question, pour laquelle il n'est mis, peut y avoir de discussion. Il dit, le mystère de la piété est grand, par conséquent, ce que ce passage nous dit jusqu'ici, c'est qu'il n'est mis, peut pas y avoir de discussion quant à la grandeur du mystère de la piété. Maintenant, c'est une manière de dire, approximativement, que vous n'avez mis pouvez pas discuter le fait que le mystère de la piété est grand. Et je n'ai mis pense pas que quelqu'un vous dira que le mystère de la piété n'est pas grand. Car c'est ça qui a été caché aux hommes pendant 2000 ans. À savoir, comment Dieu pouvait être manifesté en chair. Vous voyez le mot piété, godliness, est tiré des mots similarité ou ressemblance, likeness, et Dieu, godlikeness. Et ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de discussion sur la façon dont est grand le mystère d'être comme Dieu. Tout le monde convient donc que c'est un grand mystère. Le mot mystère vient du mot grec mysterion qui signifie la bouche fermée, et il implique l'idée de silence. En d'autres termes, il n'y a pas grand chose qui puisse être dit à ce sujet, parce qu'on est aimé le comprend pas très bien. Ainsi, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Maintenant, voilà le grand mystère de la piété, d'être comme Dieu, et il n'y a pas de désaccord quand on en vient voir cette similarité avec Dieu, et la grandeur du mystère. Comment est-ce que Dieu pouvait-il être manifesté en chair alors que Dieu est esprit? Maintenant le mot godliness, piété comme je l'ai dit, vient du vieil anglais godlikeness être comme Dieu. En d'autres termes, quand nous disons que cette personne-ci ou cette personne-là est terre pieuse, nous sommes en train de dire qu'ils sont divins, comme Dieu. Donc, la piété, c'est être comme Dieu. De même que les saintes écritures disent que les justes sont connus pour leurs œuvres justes. De même, nous voyons que les méchants sont connus pour pratiquer ou faire le mal à qui ou agir avec méchanceté comme nous voyons dans le livre de Daniel. Daniel 12:10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal à qui aucun des méchants n'ennemi comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Par conséquent, les hommes pieux sont divins, comme Dieu, parce que tout ce qu'ils font est fait comme Dieu le ferait. 1 Jean 3, 7. Petits enfants, que personne n'ennemi vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même Dieu est juste. Maintenant, le mot righteo en anglais vient du vieil anglais righteousness, qui littéralement traduit signifie correctement sage. Vous êtes juste parce que vous êtes correctement sage, et en montrant dans vos œuvres ce qui est correctement sage, vous exprimez ce qui s'appelle la justice. Par conséquent, votre justice vient par le fait de faire ce qui est correctement sage, pas seulement par le fait d'en parler. 1 Jean 2:29. Si vous savez qu'il, Dieu, est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Et le juste est celui qui fait ce qui est juste. Matthieu 10:41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, qui reçoit un homme qui fait ce qui est juste, en qualité de juste recevra une récompense de juste. Ainsi quand vous recevez un homme, qui fait ce qui est juste en qualité d'un homme, qui fait ce qui est juste, vous recevrez la récompense d'un homme qui est juste, parce que vous faites ce qui est juste en le recevant. Alors qu'arrive-t-il à ceux qui s'éloignent et n'y reçoivent pas un homme qui fait ce qui est juste? Recevront-ils la récompense du juste? Romains 5:19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, Christ Jésus, beaucoup seront rendus justes, ou correctement sages. Maintenant, dans l'écriture suivante que nous lirons, vous verrez à quel point il est important pour Dieu que vous fassiez ce qui est juste de faire. Parce qu'ils sont nombreux ceux qui entreront dans la vie éternelle au trône blanc, d'après ce qu'ils ont fait, selon leurs œuvres. Ainsi, ceux qui pensent qu'ils n'aiment ils doivent pas faire des œuvres, ils n'aiment ils connaissent rien quant à ce qu'est réellement la justice. Matthieu 25. 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et avons-nous donné à boire? 38. Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous recueilli, ou nu, et avons-nous vêtu? 39. Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. 42. Car j'ai eu faim, et vous m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. 43. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. 44. Or ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, Et Néhémie, t'avons-nous pas assisté? 45 Et il leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est-à-dire à moi que vous, Néhémie, les avez pas faites. 46 Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Maintenant, en revenant à ce que Paul enseignait dans 1 Timothée 3:16, nous y avons lu, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, il n'est pas dit que Dieu était chair, car Dieu est esprit, Jésus lui-même a dit cela. Jean 4:24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Mais Paul dit, Dieu a été manifesté en chair, et ainsi nous devons comprendre la manière dont Dieu a été manifeste en chair. Et dans la chair de qui il s'est manifesté. Jean 1:1 Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant, vous Néhémie pouvez pas être plus définitif. C'est irrévocable. Il est dit ici que Dieu est la parole. Ou plutôt le logo. Le logo était Dieu. Deux, elle était au commencement avec Dieu. Maintenant, ça Néhémie parle pas d'une autre personne qui était avec Dieu, mais ça parle plutôt de la nature de Dieu. Ce qu'il était, ce qu'il est. Il est la parole. Et donc sa parole était toujours avec lui parce que c'est ce qu'il est. Un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc Dieu est à la somme de sa pensée, sa parole. Trois, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, ça Néhémie parle pas du Fils de Dieu, parce que le Fils Néhémie pouvait faire que ce qu'il voyait le Père faire. Jésus le Fils de Dieu n'est pas le Créateur, ni le Guérisseur. Le Fils l'a lui-même dit dans Jean 5:19 le Fils Néhémie peut rien faire de lui-même. Et dans Jean 5:30, il dit, je Néhémie puis rien faire de moi-même. Par conséquent, ce même Jean qui a écrit le chapitre 5. N'est pas en train de dire ici que le Fils de Dieu est la parole et que le Fils de Dieu est le Créateur. Il a dit que Dieu est la parole et que Dieu est le Créateur. Et de ce même Dieu qui a créé toutes choses, il dit toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Puis il dit, 4 en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, c'est le même Jean qui a écrit le chapitre 5, où il dit au verset 26, car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi l'a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Par conséquent, celui-ci dont il parle au verset 4, où il dit, 4 en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il n'est pas parlé du Fils de Dieu mais de Dieu lui-même. Puis Jean dit, 5 la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres Néhémie l'ont point reçu. Maintenant, nous pourrions prendre toute une série sur cette déclaration, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais nous trouvons un principe ici, c'est seulement ceux qui ont la vie de Dieu en eux qui comprendront les choses de Dieu. Paul en parle dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Si s'il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Et nous pourrions dire la même chose pour cette heure. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était William Branham, c'est il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8 Il, Jean ou William, n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage, à la lumière. 9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10 Elle était dans le monde, quand est-il venu dans le monde? Jean nous le fera savoir dans quelques versets, et le monde a été fait par elle. Il parle toujours de Dieu, et le monde Néhémie l'a point connu. 11 Elle est venue chez les siens, Les Juifs étaient son peuple élu et les siens Néhémie l'ont point reçu. 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui agissent comme réceptacle ou tabernacle, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, l'exousia, la capacité de prendre une bonne décision, de devenir enfant de Dieu, lesquels, il parle encore de fils ici, sont nés, 13 non du sang, ni de la volonté de la chair, pas votre volonté, ni de la volonté de l'homme, pas de votre capacité de vouloir, mais de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Maintenant, de qui parle-t-il ici? Des fils, n'est-ce pas? Alors pourquoi dévirait-il et reviendrait-il à parler de Dieu? Remarquez, puis il dit, 14 et la parole a été faite chair. En d'autres termes, il parlait de comment les fils de Dieu sont ceux qui sont nés, pas par une puissance ni par une volonté propre à eux, mais par Dieu produisant en eux le vouloir et le faire. Et la parole « Dieu » a été faite à chair. En qui? Dans le Fils et puis dans les fils, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire de Dieu, le doxa de Dieu, les opinions de Dieu, les valeurs de Dieu, les jugements de Dieu, une gloire, doxa, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jésus-Néhémie nous a-t-il pas dit dans Jean 17? Le même Jean qui a aussi écrit ce verset? Le même Jean n'a-t-il pas dit de Jésus dans Jean 17:22 « Je leur ai donné la gloire, le doxa, les valeurs, les opinions, et les jugements que tu m'as donnés, afin qu'il soit un comme nous sommes un. » 14 Et la parole a été faite chair. La manière dont la divinité a tabernaclé dans son Fils et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire de Dieu, une gloire, doxa, comme la gloire du Fils unique venu du Père. 15 Jean lui a rendu témoignage, et s'est-elle crié, Cester celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Maintenant, quand Jean a-t-il rendu témoignage à la lumière, et de celui en qui la lumière restait rentrée? Au fleuve Jourdain, quand il a vu la lumière, la Shekina représentant la présence de Dieu, qui descend et entre en Jésus, le Fils. Maintenant, continuons avec 1 Timothée 3:16 et, sans contredit, le mystère de la piété Esther grand, Dieu a été manifesté en chair, et nous venons de montrer comment, puis il dit, sourire, a été justifié en esprit, ainsi qu'Esther ce que ça veut dire? Dieu a été justifié en esprit, bon ce mot justifié a été traduit du mot grec dikaiou, que signifie rendre innocent ou juste. Et rendre signifie montrer, manifester. Ainsi, Dieu s'est-il montré par sa propre manifestation dans le corps de son Fils lorsque son Fils l'a déclaré ou fit connaître qu'il était l'innocent, le juste parce que ce qu'il faisait était juste. Puis Paul dit que ce Dieu qui s'est-il manifesté dans le corps de son Fils a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Remarquez alors que ce passage Néhémie parle pas de Dieu lui-même devenant chair, mais plutôt de comment Dieu s'est-il manifesté en chair. Ainsi il nous faut savoir de quelle chair il s'agissait et nous l'avons déjà prouvé en reconnaissant les choses que Jésus a dit concernant le Père, qui demeurait en lui, et comment il a fait connaître le Père par les choses qu'il a fait, la vie qu'il a vécue, les choses qu'il a dites. Pour finir, voyons le dialogue entre Philippe et Jésus dans Jean 14. Maintenant, je veux que vous lisiez tout le contexte, parce que c'est sans cela que les unitaires manquent de comprendre la façon dont Dieu était en Christ, et c'est ainsi que des gens, dans ce message, manquent le sens de Jean 14:12 parce qu'ils le lisent comme une pensée isolée au lieu de le lire de la façon dont Jésus l'expliquait à Philippe. Comment Dieu s'est manifesté en lui puis dans des fils, en commençant par lui comme fils aîné, puis dans sa vaste famille de frères. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'est mis vient au Père que par moi. C'est si vous me connaissiez. » Une relation empirique, basée sur une expérience, avec moi, vous connaîtriez, par expérience, aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez, par expérience, et vous l'avez vu, compris. 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu n'es mis m'a pas connu, expérimenté. Philippe. Celui qui m'a vu, compris, a vu, compris, le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Maintenant, la plupart des unitaires s'arrêtent ici mais nous devons continuer à lire, parce que Jésus nous explique comment nous voyons et donc comprenons Dieu en lui et à travers lui. Dis Néhémie, crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je Néhémie les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. 11. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Maintenant, frères, notre message s'arrêtera ici. Mais remarquez qu'il parle de la manière dont Dieu peut être vu en lui par les choses même qu'il faisait et disait. Puis il nous dit la manière dont Dieu sera manifesté dans et à travers d'autres fils ou croyants, que frère Branham a défini comme étant ceux qui sont nés de nouveau par l'Esprit de Dieu au verset suivant. 12. En vérité, je vous le dis, celui qui, ce qui, quiconque, n'importe qui, tout le monde, chaque croyant qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. 17. L'esprit de vérité, que le monde Néhémie peut recevoir, parce qu'il Néhémie, le voit, comprend, point Néhémie le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Voici votre mystère de la piété, car Dieu a été autrefois et il est aujourd'hui manifesté en chair à travers le croyant, qui est rempli du Saint-Esprit. Et si le même Esprit qui était en Jésus est en vous, il vivifiera aussi votre corps mortel par le même Esprit qui a demeuré en lui. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, juin 2015. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.